Bienvenue sur la chaîne du podcast Éco-Mouvement,
le média de sensibilisation sur les sujets liés à la transition écologique, sociale et solidaire.
Tous les lundis, on te propose d'aborder un sujet lié à l'environnement.
Avec des invités inspirants, des scientifiques ou encore des entreprises engagées.
On t'embarque pour la saison 3.
Bonne écoute.
Bonjour, c'est Arnaud du collectif Éco-Mouvement. Aujourd'hui, je reçois Valentin Desfontaines pour discuter de mobilité durable. C'est parti.
Merci Valentin d'avoir accepté notre invitation sur le podcast d'Éco-Mouvement. Est-ce que tu pourrais te présenter à celles et ceux qui nous écoutent ?
Ouais, merci à toi pour l'invitation. Donc, je m'appelle Valentin Desfontaines et je suis responsable mobilité durable au sein d'une association qui s'appelle le Réseau Action Climat. Et donc, le Réseau Action Climat, c'est un réseau donc, qui regroupe 26 ONG qui travaillent sur les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Il y a des ONG très connues comme Greenpeace, comme les Amis de la Terre, le WWF. Donc, ça a plutôt des assos environnementales. Et puis, il y a aussi des assos qui travaillent plutôt sur les enjeux de justice, de solidarité, je pense au Secours catholique, à Oxfam. Et voilà, tout et tous ensemble, on essaye de penser en fait des solutions, une vision commune pour répondre à tous les défis que pose le changement climatique. Et sur les transports, en l'occurrence, pour moi.
Oui, évidemment. Donc nous, on va plutôt parler mobilité durable aujourd'hui. Évidemment, avant de commencer, est-ce que tu peux nous définir, nous expliquer ce que c'est que la mobilité durable et qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là ?
Ouais, je vais la définir peut-être en définissant d'abord l'inverse en fait de la mobilité durable et donc en disant que aujourd'hui le constat qu'on fait c'est que les manières dont on se déplace majoritairement, donc c'est essentiellement la voiture diesel essence et puis sur les déplacements plus longs beaucoup aussi l'avion. Ces modes de déplacement qui sont majoritaires aujourd'hui, ils posent tout un tas d'enjeux et de problèmes, même en fait, d'un point de vue climatique, environnemental, sociaux. On pourra revenir dessus. Et donc, la mobilité durable, en fait, c'est l'ensemble des déplacements, l'articulation entre tout un tas de modes de déplacement, hein, parce qu'il n'y a pas forcément des modes de déplacement magiques, qui vont nous permettre de répondre à ces défis tout en continuant à se déplacer. En fait, l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est de continuer à se déplacer, mais en répondant à l'enjeu climatique, à l'enjeu environnemental, par exemple.
Ok. Et oui, vas-y, je t'en prie.
Non, et donc, j'allais dire, typiquement, si on va sur... peut-être ce qui est important, c'est de comprendre, en fait, c'est quoi les défis que pose la mobilité aujourd'hui, la façon dont on se déplace aujourd'hui en France. Et donc, au Réseau Action Climat, on en identifie, on va dire, quatre principaux. Le premier, évidemment, c'est le défi climatique. Les transports, c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France et ça représente pas loin de un tiers de l'ensemble des émissions annuelles de la France. C'est à peu près 31% des émissions annuelles qui sont liées aux émissions des transports. Donc, que ce soit la voiture, les poids lourds, et puis l'aérien en particulier. Donc ça, c'est déjà un sujet. Et puis, ce qui est plus préoccupant, en fait, c'est qu'en plus d'être le premier secteur émetteur, c'est le seul secteur, vraiment le seul, qui, pour l'instant, n'arrive pas à réduire ses émissions. En fait, il y a un sujet global, à savoir que les secteurs, que ce soit le secteur agricole, industriel, ils ne réduisent pas suffisamment vite leurs émissions. Mais quand même, ils arrivent, année après année, à les réduire un petit peu. Les transports, en fait, c'est qu'on n'arrive même pas à entamer cette baisse. Et... l'enjeu aujourd'hui, concrètement, c'est quoi ? Si on veut respecter nos objectifs climatiques et baisser notamment là de moins 55% les émissions des transports d'ici à 2030, il faudrait qu'on multiplie par 5 l'effort annuel de baisse des émissions. Donc en fait, il y a une marge qui est vraiment colossale. Enfin, le défi, il est vraiment, vraiment impressionnant, quoi. Alors, on y reviendra après. Il y a plein de solutions et on n'est pas du tout démunis là-dessus. Oui, pardon, vas-y. Tu allais me poser une question.
Non, mais justement, à propos des défis auxquels répond la mobilité durable, il y a aussi des obstacles pour promouvoir cette mobilité durable, essayer de la faire adopter le plus rapidement possible et le plus largement possible. C'est quoi les défis auxquels vous faites face pour essayer de, de transformer cette mobilité?
Ouais, alors si tu veux, je suis beaucoup plus court sur les autres enjeux,
Ouais.
mais je les donne quand même, et puis je te réponds tout de suite après
Vas-y, je t'en prie.
sur un peu les blocages que nous on observe au quotidien. Donc là, j'ai parlé du climat, peut-être dire très vite qu'il y a un vrai sujet sanitaire aussi, notamment lié à la pollution de l'air. Et le secteur des transports, c'est un des principaux secteurs responsables de la pollution de l'air. Ça a des conséquences très concrètes qui sont des décès prématurés. Il y en a. C'est vraiment des chiffres importants, hein. Entre 40 000 et 100 000 décès prématurés par an en France. C'est évidemment des problèmes respiratoires, mais en fait, le spectre des conséquences de la pollution de l'air, il est super large. Par exemple, il y a des chercheurs qui ont découvert il y a assez peu de temps qu'une forte exposition au dioxyde d'azote, qui est du coup un polluant émis par les voitures diesel, il augmentait le risque de cancer du sein. Et que typiquement, si on respectait les normes de l'Organisation mondiale de la santé sur ce polluant, le dioxyde d'azote, on diminuerait d'environ 10% le nombre de cas annuels de cancer du sein. Il y a environ, malheureusement, 60 000 nouveaux cas de cancer du sein par an. Donc, c'est à peu près 6 000 cas en moins, 6 000 cas évités, si jamais on s'attaquait, voilà, à ce sujet des transports. Et puis, très vite, défi environnemental, parce que les transports, c'est essentiellement des routes. Il y a plus d'un millier 1 million, pardon, de kilomètres de route en France, et on va encore en construire davantage. Mais pour en construire davantage, c'est de la déforestation, c'est bitumer des terres agricoles, et ça, c'est un problème aujourd'hui parce qu'on est déjà en manque, en fait, d'arbres, de terres agricoles, de zones humides, que ce soit pour nos activités agricoles ou pour capter le carbone. Et ça, c'est aussi un enjeu. Et puis, défi social, parce que globalement, se déplacer, ça coûte de plus en plus cher. Puisqu'on se déplace majoritairement en voiture et que le prix du carburant augmente, le prix des voitures augmente à cause des stratégies du constructeur, et que si on ne fait rien, en fait, les gens vont payer de plus en plus cher leur mobilité. C'est déjà très compliqué aujourd'hui et ça risque d'être pire demain. Voilà, excuse-moi, mais je pense que c'était
Non, non,
important
c'est très bien. Oui, c'est que
d'avoir
c'est
bien en
complet.
tête ces enjeux. Et tu vois, sur le dernier enjeu, par exemple, sur le défi social, en fait, nous, on a fait tout un travail là-dessus l'année dernière pour essayer d'évaluer le coût que représente chaque année la possession d'une voiture. Donc, que ce soit son achat, mais aussi le fait de rouler avec, donc l'assurance, le carburant, évidemment, voilà, toutes ces choses-là. Et donc, en 2022, c'était à peu près 4 200 euros par an et par véhicule. Et ça, c'est en augmentation. On a regardé les chiffres en 5 ans avant, donc 2017, c'était à peu près 3 700 euros par an. Donc, ça fait plus 500 euros en l'espace de 5 ans. Et puis, si on se projette là dans 5 ans, donc c'est 2027, quand on a regardé en 2022, eh ben on atteint quasiment 5 000 euros en fait de coût de possession et d'usage de la voiture. Et ça, je le disais, c'est parce que en fait, la voiture, elle est dépendante des énergies fossiles, dépendante de l'essence, du diesel, et que malheureusement, on est plutôt dans un scénario aujourd'hui où en fait, il y a un enjeu autour de ces ressources et que il y en a moins de disponibles et que donc elles coûtent plus cher. Et puis aussi que le prix des voitures, il a explosé, puisque mais ça, on pourra y revenir après, mais parce que les constructeurs, ils veulent faire des marges importantes, et donc les voitures, elles sont plus haut de gamme qu'avant, et évidemment, les prix, ils augmentent, et en fait, ça devient de plus en plus compliqué d'acheter une voiture neuve. Alors ça, c'était déjà une petite minorité de personnes, mais forcément, ça a aussi des conséquences sur le marché de l'occasion.
Oui, tout à fait. Et j'enchaîne sur une question qui me paraît assez importante. Là, on a bien fait le point sur ce qu'était la mobilité durable et tous les enjeux qui étaient liés à ça. Concrètement, une entreprise, que ce soit publique ou privée, comment est-ce qu'elle fait pour participer au mouvement de transition vers une mobilité durable, avec que ce soit des subventions, des locations de véhicules de mobilité durable, si je peux dire. Comment est-ce que les entreprises peuvent participer à ça?
Alors, les entreprises, clairement, elles ont un rôle important à jouer. Je pense qu'elles ont pas mal de leviers à disposition pour. Donc là, on parle vraiment des émissions des salariés, des personnes qui travaillent dans ces entreprises, c'est ça, et qui donc se déplacent en fait. Ouais,
Oui,
je
tout à
pense
fait.
qu'il y a pas mal de leviers. Pour moi, le plus efficace, enfin le plus conséquent, c'est le lieu où se trouvent les entreprises. En fait, ça, c'est un truc qui revient souvent, la question du choix d'implantation d'une entreprise. Et aujourd'hui, on est encore dans le modèle. Tout à l'heure, je parlais de la construction de nouvelles routes. Souvent, ces nouvelles routes, le but, ce n'est pas de desservir une forêt, c'est de construire des nouvelles zones d'activité commerciale, des nouvelles zones industrielles, et qui sont souvent, en fait, assez éloignées des villes et puis plus globalement des lieux de vie en fait des personnes. Et donc de faire ces choix d'implantation, ça veut forcément dire que on va devoir prendre sa voiture en fait pour venir au travail et que donc bah il faut un grand parking pour accueillir tous les véhicules ou autre. Donc pour moi le premier enjeu c'est de en fait quand l'entreprise n'existe pas encore ou le bâtiment là en question n'existe pas encore, c'est de ou bien l'installer à un endroit qui est accessible. Donc en fait ne pas contribuer à l'étalement urbain, donc essayer de rester quand même proche de là où vivent et les gens font leurs activités. Et puis quand ce n'est pas possible, il y a un vrai sujet autour de bon, bah, on va s'installer là, mais par contre, comment est-ce qu'on fait en sorte que les personnes, les salariés, ils ne soient pas contraints, obligés de prendre leur voiture pour venir. Et donc, bah, peut-être qu'on va plutôt le mettre ici ou travailler avec la ville pour qu'il y ait une ligne en fait, de transport en commun qui desserve le site. Donc, ça, vraiment, c'est le principal. Je pense que c'est le levier le plus important. Et aujourd'hui, clairement, ça rentre, je pense, quasiment jamais en compte. L'enjeu, c'est plus bah, le coût du terrain, l'espace disponible. Voilà, c'est plutôt ces critères-là. Mais alors, la question des déplacements pour venir à l'entreprise, elle est très peu prise en compte. Et en fait, ce n'est pas juste un sujet climat, c'est un sujet qualité de vie aussi pour les salariés. Parce que déjà, c'est des frais en moins pour les salariés. C'est potentiellement du temps de trajet en moins aussi si on évite comme ça d'étirer sans cesse les distances qu'on parcourt en voiture. Donc ça, premier levier. Et puis l'autre, quand on parle de grosses entreprises qui ont plein de sites, en fait, moi, j'entends souvent des cas comme ça où l'entreprise va avoir plusieurs sites, mais la personne, le salarié, il va travailler dans un site qui est super loin de son domicile. Donc je pense qu'il y a aussi tout un travail à faire en interne pour essayer bah, de mieux répartir, en fait, si les gens le souhaitent, évidemment, hein, mais de mieux répartir en fait, les salariés aussi en fonction de leur lieu de vie, toujours voilà, dans l'idée de limiter la longueur des déplacements. Une fois qu'on a fait tout ça, il y a peut-être deux autres choses, deux autres leviers là, qui me viennent en tête. Le premier, c'est évidemment à la fois la prise en charge des transports en commun, mais aussi, ce que je disais tout à l'heure, travailler avec les agglomérations sur les dessertes de transports en commun. Souvent, les entreprises, elles ne sont pas toutes seules dans leur coin. Elles sont dans une zone d'activité commerciale, par exemple. Et donc, collectivement, il y a un vrai enjeu à travailler avec les agglomérations qui gèrent en fait, les transports collectifs pour essayer de soit créer des dessertes de bus quand il n'y en a pas ou alors d'arranger les horaires, parce qu'on sait très bien qu'un des problèmes quand il y a des bus, c'est que parfois les horaires, soit il n'y en a pas assez, et donc en fait c'est trop contraignant, soit c'est pas les bons, parce qu'on arrive, je sais pas moi, juste après 9 heures au travail, et donc ça le fait pas, ou bien qu'on est obligé de repartir trop tôt du travail, et donc pareil, ça le fait pas. Donc travailler en fait sur tous ces blocages-là qu'on a un peu toutes et tous expérimentés quand on a voulu essayer de prendre les bus. Ouais. Et puis le dernier levier, c'est sur tout ce qui est déplacement à vélo, où en fait, il y a un dispositif aujourd'hui qui s'appelle le forfait mobilité durable et qui permet, tout comme l'entreprise, elle est obligée de prendre en charge 50% de l'abonnement en transport en commun des salariés. Et bien, le forfait mobilité durable, il permet en fait de prendre en charge les déplacements, d'inciter les salariés à se déplacer, par exemple, à vélo via une allocation. En fait, c'est un forfait. Souvent, c'est un forfait de 400 euros sur l'année et qui va permettre... ou bien d'acheter un vélo, ou bien de payer en fait tous les frais liés à un vélo, ils sont limités. D'ailleurs, c'est un des avantages du vélo. Mais quand même, s'équiper en lumière, en sacoche, en casque, anti-vol, enfin tous ces frais-là, voilà, de les prendre en charge. Et puis, plus globalement, en fait, de valoriser le fait de se déplacer à vélo. Et le problème aujourd'hui, c'est que le gouvernement, il ne veut pas rendre ce dispositif obligatoire, alors qu'on voit qu'il a un vrai impact dans les organisations dans lesquelles c'est mis en place. Et donc, il y a un vrai enjeu à ce que d'elles-mêmes, en fait, les entreprises, elles se saisissent de ce dispositif-là pour le mettre en place et proposer ça aux salariés. Les salariés, ils peuvent aussi demander à leurs entreprises de s'en saisir hein, via comité d'entreprise. Enfin, il faut aussi que les salariés, peut-être, soient proactifs, confrontent un peu les entreprises sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est peut-être les 3-4 leviers, là, comme ça, qui me viennent en tête.
D'accord. Et justement, on parlait donc d'étalement urbain au niveau des villes. Est-ce que tu as des exemples de villes ou juste d'entreprises qui font en sorte que cette mobilité durable soit possible et ça fonctionne, quoi. Une preuve que ça fonctionne.
Ouais. Alors oui, sur la façon de se déplacer autrement, heureusement, il y a plein de preuves. Déjà, il y a plein de solutions. Ouais. Et puis, il y a plein de preuves. quand on creuse un peu, sur la question de l'étalement urbain en particulier. Là, c'est peut-être un peu plus compliqué dans le sens où, en fait, là, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas du tout, du tout sorti de cette logique-là. Et si on regarde les routes en particulier, et en fait, c'est un peu ça je me permets d'insister un peu dessus parce que avant même de parler de faire autrement, il y a un truc qui est plus simple normalement à faire, c'est on a compris en fait quels étaient les problèmes et donc on va éviter d'aggraver le problème en continuant à faire pareil. Et en fait, aujourd'hui, sur les routes, juste, on est en train de faire exactement pareil. Pour donner quelques chiffres, il y a à peu près, je disais, 1 million de kilomètres de routes en France. La France, c'est le pays européen avec le plus de routes. Globalement, on peut aller à peu près partout en passant par une route avec sa voiture. Mais quand même, aujourd'hui, il y a plus de 50 nouveaux projets routiers qui sont toujours prévus en France. Ça représente quasiment 1 millier de kilomètres de routes en plus. Et ça, c'est catastrophique parce que plus de routes égale plus de trafic égale plus d'émissions. Ça, c'est mathématique et ça a été prouvé partout. Et puis, on parlait tout à l'heure des enjeux de préservation des forêts, des terres agricoles ou autres. Ces projets-là, ils ont des impacts environnementaux qui sont juste terribles à l'heure où il faudrait préserver toutes ces terres-là. Et puis, enjeu social aussi, parce que souvent, ces projets routiers-là, c'est des projets d'autoroutes. Et donc, des autoroutes, c'est payant. Alors que parfois, en fait, typiquement, la 69, pardon, entre Toulouse et Cazes, dont on a beaucoup parlé, c'était ça. Enfin, et c'est toujours ça, à savoir qu'on a une route nationale gratuite et que là, on veut mettre en face une autoroute payante. Alors, on peut se dire oui, ok, mais les gens, s'ils ne veulent pas, ils ne la prendront pas. Mais en fait, on est subtilement quand même en train de beaucoup compliquer la vie des personnes qui prennent la nationale parce qu'on va rajouter un rond-point ici, un autre par là. Et que oui, à la fin, ça va devenir en fait compliqué de prendre cette route et que les gens, en fait, ils vont être forcés de passer sur l'autoroute, sauf qu'elle coûte cher. On disait que les déplacements coûtaient déjà cher. Donc voilà, gros sujet là-dessus. Et après, sur les bonnes pratiques, là, les exemples, quand tu posais la question, oui, il y en a plein. Alors, si on prend par exemple la question des cars, par quoi je commence? Allez, on va prendre le train. Typiquement, ça, c'est un vrai sujet, le train. En France, on a délaissé le réseau, ce qui fait qu'aujourd'hui, la part du train, elle n'est pas du tout suffisante, que c'est souvent encore compliqué de prendre le train pour se déplacer au quotidien. Là, les bons exemples, ils ne sont pas forcément en France, mais si on regarde juste à côté de chez nous, que ce soit en Autriche ou en Suisse, en fait, on a la preuve que d'investir dans le réseau ferroviaire, de penser une offre vraiment complète au sens où elle est régulière toutes les 15 minutes et puis elle est vraiment de 6 heures à minuit le soir, par exemple, ou même plutôt que 6 heures, ça marche parce que si on regarde, le train aujourd'hui en France, c'est à peu près 10% des déplacements. Et quand on regarde ces pays-là, on est au moins au double, plutôt de l'ordre de 20%.
Donc, juste une précision, quand tu dis le train, est-ce que ça comprend aussi tout ce qui est RER, métro, ou c'est simplement les trains grandes lignes?
Alors là, c'était plutôt tout ce qui est TER, intercité, okay. Et puis TGV. Oui, c'est la partie vraiment train et pas forcément transport plutôt urbain, métro, tramway. Okay. Donc, on voit à l'étranger que d'investir dans le réseau ferroviaire, de faire le choix politique d'avoir une offre de train importante, ça marche puisque derrière, les gens, ils ont intérêt à le prendre. Ça leur coûte moins cher, on peut faire d'autres choses pendant son trajet, c'est plus confortable. Donc en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, les conditions, elles ne sont pas réunies pour que les gens ils passent massivement vers le TER ou les autres types de trains qui existent. Si on regarde les cars express, je pense que c'est un bon exemple parce que, il y a un potentiel énorme ferroviaire, mais il y a évidemment des endroits où il n'y a pas de ligne de chemin de fer, il n'y a pas de gare et on ne va pas en créer des nouvelles. Alors, on peut trouver des manières d'amener rapidement les gens vers les gares les plus proches via, par exemple, des réseaux cyclables ou bien des lignes de bus. Mais quand c'est compliqué, je pense que le car, c'est un vrai potentiel qui n'est pas du tout exploité en France. Globalement, aujourd'hui, en France, il y a plein de lignes de cars. Enfin, dans tous les départements, il y a un réseau de cars. Mais en fait, quand on regarde un peu le réseau de cars, le choix qui est fait, c'est de desservir un maximum de communes, de hameaux, quitte à avoir des trajets à la fin qui sont très, très longs et pas du tout compétitifs avec la voiture, qui vont être deux fois plus longs que la voiture, par exemple. Ce qui est très bien pour répondre en fait, à un objectif de desserte fine, mais qui n'est pas suffisant en fait. Il faudrait faire ça, mais faire aussi des trajets qui soient plus directs, par exemple sur les grands axes routiers, les routes nationales, afin de, d'avoir des temps de trajet en fait, qui soient à peu près équivalents au temps de trajet qu'on a en voiture. Là, encore une fois, le meilleur exemple, si jamais ça intéresse les personnes qui nous écoutent, c'est Madrid, qui a une politique de car qui est hyper impressionnante. Mais les villes françaises, elles commencent aussi à s'y mettre. Et là, l'exemple qui me vient, c'est à Bordeaux. Au sud de Bordeaux, il y a une commune qui s'appelle Créon. C'est à peu près à 30 km de Bordeaux. Et en fait, il y a un peu plus d'un an, ils ont mis en place une ligne de car pour rejoindre la ville de Bordeaux, puisqu'en fait, c'est ça souvent l'enjeu. C'est que les emplois, ils sont concentrés dans les grandes villes, dans les métropoles. Le loyer coûte très cher dans ces villes parce que, et c'est aussi un sujet d'ailleurs, moi, je pourrais moins en parler parce que ce n'est pas mon sujet, mais la question du logement, elle est très liée en fait à la question des déplacements parce que souvent, on se déplace puisque justement, les logements coûtent très cher dans les villes et que donc, on s'installe plus loin et que donc, on se déplace plus. Et donc, là, ils ont voulu justement mettre en place une ligne de car pour répondre à cet enjeu en fait, des personnes qui habitent à Créon et qui globalement travaillent à Bordeaux. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont réussi à mettre en place la ligne de car en seulement 9 mois. Donc, ce qui est hyper court, 9 mois. Et ce qui est assez logique, puisqu'en fait, le car, hormis se mettre d'accord entre département, ville, il y a assez peu. Et fournir le car, la route, elle est déjà là. En fait, l'infrastructure, elle est déjà là. Et donc, je trouve que c'est un super exemple de à quel point, si on veut le faire politiquement, on peut quand même aller assez vite pour apporter des réponses. Et là, je te disais, ça fait à peu près un an que ça a été mis en place. Et c'est un vrai succès. En gros, il y a une offre de car toutes les 15 minutes pendant les heures de pointe, toutes les 30 minutes pendant le reste de la journée. Et aujourd'hui, il y a à peu près 1000 voyageurs qui prennent cette ligne par jour. Au début, il y en avait 500, ça a quasiment doublé. Et en fait, ça marche tellement bien que là, la métropole, elle veut répliquer ça sur d'autres lignes qui desserviraient d'autres communes. Donc, ça, pour moi, c'est un super exemple de ce qu'il faudrait faire dans beaucoup d'agglomérations, en plus de développer les TER, les réseaux express métropolitains. Et peut-être dernière chose, et après, je me tais sur les bonnes pratiques, mais c'est pour montrer qu'il y a pas mal d'exemples, et je te laisse me poser d'autres questions si tu en as, mais sur le vélo, typiquement, en fait, on voit très bien que les villes qui s'y sont mises très tôt, au sens où elles ont développer des pistes cyclables qui sont sécurisées, qui sont sûres, en fait, où on n'est pas au milieu des voitures, avec une signalisation aussi propre au vélo, et ben en fait, ça marche. Strasbourg, c'est peut-être la ville en France qui s'y est mise le plus tôt. Et aujourd'hui, la part du vélo dans les déplacements dans la ville, c'est à peu près 11%. Si tu regardes à l'échelle nationale, la part des déplacements à vélo, c'est 3%. Donc, 4 fois plus. Et puis, des villes qui s'y sont mises plus récemment, comme par exemple Grenoble, elles ont aussi des résultats qui sont hyper impressionnants, même plus impressionnants qu'à Strasbourg. En fait, Grenoble a commencé plus tard, mais très vite et très fort. Et sur les déplacements domicile-travail, il y a quasiment 17% des personnes qui habitent à Grenoble qui prennent le vélo en fait, pour faire ces trajets-là. Et en fait, ce n'est pas miraculeux, quoi. C'est vraiment parce qu'on a fait ces pistes cyclables, on a mieux pensé les feux rouges, les stops, les CD de passage, en fait, pour aussi fluidifier ces déplacements à vélo. Et ça marche. Je pense que vraiment, le vélo, là, et on le voit bien globalement depuis le Covid, en fait, quand on fait les infrastructures vélo, les vélos, ils arrivent. Et après, ils n'arrivent pas d'arriver. Et ça devient même un sujet parce qu'il faut refaire des infrastructures qui soient plus larges, plus dimensionnées pour accueillir tous ces flux de vélos. Voilà, quelques petits exemples peut-être de bonnes pratiques.
Oui, mais c'est hyper intéressant de voir qu'il y a aussi des bons élèves et qu'il y a des exemples assez inspirants, même en France.
Ouais. Ah, mais tiens, d'ailleurs, et pardon.
Oui, vas-y.
Excuse-moi, j'en rajoute juste un, parce que là, sur le vélo, c'était très grande ville, mais tu as aussi des départements comme l'Ille-et-Vilaine, donc quel département de la ville de Rennes, qui sont en train de développer comme ça des réseaux cyclables départementaux pour relier en fait toutes les communes entre elles. Et en fait, ils sont mis à faire ça parce qu'ils ont fait toute une enquête auprès des habitants du département. Ils se sont rendus compte que, hors de la métropole de Rennes, donc là, vraiment, on ne prend pas les gens qui habitent à Rennes, il y avait 76% des habitants du département qui prenaient leur voiture pour se déplacer sur moins de 3 km. Donc, des trajets qu'on fait, mais hyper facilement à vélo, et à vélo électrique, j'en parle même pas. Et donc, en fait, sur la base de ce constat, ils se sont dit, bon, bah, en fait, les gens, ils prennent pas le vélo, pas parce que c'est trop long, mais parce que, bah, clairement, prendre une route départementale à vélo, ça donne pas envie. Hein. Et même moi qui suis convaincu, je te dirais pas que je le ferais. Et donc, voilà, ils sont en train de développer des pistes cyclables aussi à l'échelle du département et pas que dans la ville, quoi.
Ok, oui, donc à l'échelle plus large aussi, ça se,
ouais.
Ça se développe aussi. Eh ben, merci beaucoup, Valentin, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'était hyper intéressant et c'est un enjeu assez important dont on parle pas mal aussi dans le collectif. Donc, je laisserai les gens réagir à cet épisode en commentaire. Voilà, merci beaucoup.
Eh ben, merci à toi encore une fois. À plus tard.
Merci d'avoir écouté cet épisode.
S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à le partager autour de toi. Cela nous soutient énormément.
Tu peux aussi nous faire un retour en nous laissant un avis.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
À très vite.